Ce soir, nous recevons Yves Motto. Yves Motto est né en 1956. Il est ingénieur de l'École supérieure de physique et chimie de Paris, docteur en sciences physiques. Il a un parcours bien rempli. Je vais commencer à partir de 1984, où il entre dans le groupe Rhône-Poulenc pour développer un procédé de purification de l'acide phosphorique. Après une mission de chef de projet pour la recherche de nouvelles matières premières pour les terres rares, il devient responsable des équipes de recherche sur le traitement des minerais utilisés dans les procédés amont de la chimie minérale du groupe. En 1990, il est chargé de la création du laboratoire de traitement des eaux au centre de recherche de Rodia à Aubervilliers. Et depuis 1998, Yves Motto est rattaché à l'équipe de direction du centre de recherche de Rodia à Aubervilliers, où il assure l'animation scientifique et technique des équipes dans les domaines du traitement des eaux, procédés membranaires, traitement des déchets, ainsi que les activités liées à la production et au recyclage des acides sulfuriques. Il participe en tant qu'expert scientifique au comité européen de normalisation bout du cycle de l'eau et anime un groupe de normalisation produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau. Sa spécialité est la physico-chimie des solutions, les techniques séparatives appliquées au traitement des eaux et des déchets, l'électrochimie, la minéralurgie. Il est membre du comité directeur de la Société de l'industrie minérale et membre de la Société française de chimie et de l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement. Il est l'auteur de 14 brevets et 9 publications scientifiques dans les domaines du traitement des eaux et du traitement des minerais. Monsieur Yves Motto, je vous laisse la parole.
Bonne soirée, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir et un honneur de venir vous présenter cette conférence sur le thème des coagulants et flocculants. Et je remercie l'association 2000 en France de m'avoir invité et d'avoir invité le groupe Rodia à venir faire cette conférence. Les coagulants et les flocculants sont des produits qui sont assez représentatif de l'évolution de la chimie depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Cette chimie est passée d'une chimie de production de commodités, de grands produits dits de chimie lourde, comme l'acide phosphorique ou bien le carbonate de sodium, des produits produits en plusieurs centaines de milliers de tonnes, à une chimie de spécialité, une chimie qui se caractérise par une proximité des applications dans le monde industriel. C'est-à-dire que le produit chimique doit s'adapter au procédé de l'industriel et non pas l'inverse. Cette chimie, elle a finalement trois composantes. Elle a une composante produit, ce sont des produits chimiques qui vont en fait répondre aux besoins de l'industriel. Il y a l'application, c'est cette application en fait qui va donner le cahier des charges pour ces produits, qui va bien définir précisément ce que l'on attend d'eux. Et puis finalement, il y a la recherche et développement et la science qui permettent de faire le lien entre les deux, c'est-à-dire le lien entre des produits qui vont être amenés à évoluer sans arrêt, et puis ces besoins des industriels qui sont de plus en plus pointus, de plus en plus précis. Et au cours de cet exposé sur les coagulants et flocculants, je ferai sans arrêt appel à ces trois notions de produits, d'application et finalement de science et de théorie. Le point de départ des coagulants et flocculants, c'est une application finalement majeur, et ces produits ont eu la chance finalement de se développer sur une application qui finalement est la pollution. Une eau municipale, une eau usée, une eau qui est utilisée dans un procédé industriel, contiennent finalement de très nombreuses impuretés qui sont à l'origine des impuretés que l'on voit. C'est la couleur de l'eau, c'est le trouble, la turbidité de l'eau, c'est finalement des choses qu'on ne voit pas mais qui sont extrêmement dangereuses. C'est tout ce qui va apporter la toxicité de l'eau. Et parmi ces produits, il y a des matières en suspension, des particules minérales, des argiles, du sable, des particules organiques, des micro-organismes comme des bactéries, comme des virus, des protozoaires, etc., qui sont visibles, dont la taille est à peu près supérieure à 1 micron. Il y a des particules qui sont déjà un petit peu moins visibles, à la limite du visible, qui apportent quand même, qui contribuent au trouble de l'eau, qui sont des colloïdes, qui sont en suspension dans l'eau et qui ont une taille comprise entre 1 micron, donc 1 millionième de mètre, et puis 1 nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Ces colloïdes ont à peu près la même origine que les matières en suspension, donc des parties minérales, des argiles, etc. Et puis il y a des matières dissoutes, donc ces matières dissoutes que l'on ne peut pas filtrer, par exemple, eh bien, ce sont des sels minéraux, ce sont des acides humiques, par exemple. Donc, tous ces composants sont dans l'eau, et en fait, les coagulants et les flocculants vont être utilisés pour purifier l'eau en rassemblant tous ces éléments, les matières en suspension, les colloïdes, et puis une partie des matières dissoutes, pour en augmenter la taille et faciliter leur séparation. Alors ça, c'est la principale application du traitement des eaux, des coagulants et flocculants, le traitement des eaux. Il existe d'autres applications industrielles, mais qui représentent également des défis au niveau des produits à utiliser, mais qui demandent finalement beaucoup moins de volume de produits. Ces applications, c'est la clarification des boissons, par exemple les vins, les bières. Il y a des applications extrêmement particulières, comme par exemple toutes les charges minérales qui sont dans les papiers. Lorsque l'on produit un papier, on doit les retenir dans ce papier et on utilise également des coagulants et des flocculants. Alors pour visualiser tout de suite finalement l'action d'un coagulant et d'un flocculant, je vous montre un essai fait au laboratoire. On est parti donc d'une eau usée, d'une eau polluée, alors qui contient des argiles, des colloïdes, des matières en suspension, du lait, un petit peu de levure, etc. Et on ajoute donc un produit qui va être du polychlorure d'aluminium. Ce produit, on en ajoute à peu près moins d'un milligramme par litre et on agite. On agite pendant quelques secondes, voire une minute, et puis on arrête l'agitation. Et finalement, très vite, une minute après la fin de l'agitation, on observe déjà que l'eau commence à se purifier en surface et que l'on a les particules, la taille des particules augmente et qu'elle commence à sédimenter. Et donc, au bout de 10 minutes, on voit déjà un petit peu plus cette eau qui a commencé à se purifier. Au bout de 5 minutes, eh bien, on a en surface, ici, du récipient, une eau qui est exempte de matière en suspension et extrêmement peu colorée. Donc en fait, dans un processus industriel de purification de l'eau, on fait exactement la même chose. On met le produit, on agite, et après finalement les flocs contenant les impuretés vont sédimenter, et en surface, on va récupérer une eau qui va elle être purifiée. Ce n'est pas suffisant, mais c'est la première étape d'un procédé de purification de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que la flocculation ? En fait, la flocculation, ce sont des phénomènes physico-chimiques, donc qui font intervenir à la fois les processus physiques et la chimie, qui font que des particules en suspension stable dans un solvant vont pouvoir se rassembler pour former donc des flocs, des flocons, qui sont en fait des agrégats en suspension dans l'eau. Ces agrégats, cette formation d'agrégats est réversible. Si l'on agite ces agrégats en suspension, et bien on va retrouver finalement le sol. Alors la coagulation est un processus un petit peu différent. En fait, on va prendre les particules colloïdales en suspension. Un exemple de ces particules colloïdales en suspension, eh bien, c'est le lait. On va ajouter un coagulant, et là, on va avoir un processus un petit peu différent. En fait, on va avoir non pas une formation de floques, mais une formation d'un gel qui va se former et puis décanter, sédimenter et se retrouver donc au fond du récipient. C'est ce qu'on va appeler une transition sol-gel. Alors en fait, la coagulation et la flocculation sont des processus qu'on a du mal à dissocier. Et souvent, quand on parle de nos produits industriels, on ne sait pas bien s'il faut les appeler des coagulants et des flocculants. Et on fait une différence qui est plus liée à la nature du produit qu'à leur fonction. Pourquoi on n'arrive pas bien à les différencier? C'est que la coagulation, en fait, c'est un processus qui permet de diminuer toutes les forces qui vont faire que les particules, en fait, ont tendance à ne pas s'agglomérer, toutes les forces de répulsion. En fait, la coagulation va favoriser la collision de ces particules avec d'autres particules, avec des agrégats qui sont déjà formés. Et donc, finalement, cette coagulation va favoriser la formation de floques, donc la flocculation. De même, la flocculation, qui, elle, favorise la croissance de ces agrégats, va accélérer la séparation de phase, puisque quand les agrégats vont être d'une taille suffisante, ils vont avoir une taille suffisante pour commencer à sédimenter. Donc les processus sont intimement liés. Alors, pourquoi ces coagulants et flocculants sont-ils indispensables au bon fonctionnement d'une station de traitement des eaux? Alors, ce qui est important de dire, c'est que le traitement des eaux, ce sont des opérations industrielles à très grande échelle. Donc il n'y a vraiment aucun autre procédé industriel qui met en jeu d'aussi grands volumes. C'est un monde complètement à part à ce niveau-là. On a des volumes d'eau qui circulent, qui représentent par exemple 300 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est quelque chose d'absolument gigantesque. Un procédé de fabrication d'acide sulfurique, par exemple, c'est 300 mètres cubes par jour. Donc il y a vraiment un facteur 1000 entre les deux. Donc, très grande échelle. La sédimentation, eh bien, c'est un procédé qui est extrêmement économique, puisque finalement, on n'a pas besoin d'un grand apport d'énergie. Tout va se faire avec la gravité, avec la force gravitationnelle. Donc, les floques vont sédimenter d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'apporter beaucoup d'énergie, sauf au début, pour ajouter le coagulant ou le flocculant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les équipements ne peuvent pas avoir une taille infinie. Il faut limiter leur taille. Et en fait, on estime que pour ces équipements, ces gros équipements de traitement des eaux, eh bien, il faut à peu près une vitesse de sédimentation de 1 mètre par heure. Donc la particule, le floc, il lui faut sédimenter d'1 mètre par heure pour à peu près être compatible avec les outils industriels. Alors en fait, seuls les coagulants et les flocculants permettent, sur d'aussi gros volumes, d'obtenir des agrégats suffisamment gros pour atteindre ces vitesses. Quand on regarde la loi de Stokes qui va gérer ces processus, donc cette vitesse de sédimentation, donc elle est liée à l'accélération de la gravité, elle est liée au carré du diamètre des particules, elle est liée à la différence de densité entre la particule et le liquide, et elle est liée à la viscosité du liquide. On ne peut pas jouer énormément sur les paramètres densité de la particule et densité du liquide, ils sont ce qu'ils sont. On peut difficilement jouer sur la viscosité, sinon en faisant varier la température de l'eau. Et ça, c'est quand même très coûteux de façon énergétique. On peut jouer éventuellement sur l'accélération, par exemple en mettant une centrifugeuse. Mais avec les volumes mis en œuvre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça se fait quand même un petit peu dans le milieu industriel. Donc ce sur quoi on va pouvoir jouer au maximum, c'est sur le diamètre de la particule. Ce mètre par heure de sédimentation, il correspond à peu près au diamètre d'une particule de sable de 2 microns, donc dans une eau à 20 degrés. Une bactérie isolée, elle va sédimenter à peu près à la vitesse de 50 cm par heure, donc ce n'est pas suffisant. Un virus, lui, il lui faut 2 ans pour parcourir un mètre, donc il ne tient pas la barre, on ne peut pas le séparer. Il faut donc absolument mettre ces coagulants et ces flocculants. Comment vont-ils intervenir, comment vont-ils procéder, ces coagulants et flocculants, pour faire augmenter la taille de ces particules? Alors pour ça, il faut regarder quels sont les processus qui sont derrière l'inverse de l'agrégation. Donc en fait, c'est la stabilité. Pourquoi une suspension colloïdale est-elle stable? En fait, deux particules qui vont être dans l'eau, par exemple, eh bien, ces particules sont chargées. Dans une eau, à un pH habituel de l'eau, les colloïdes sont généralement chargés négativement. Il y a essentiellement des groupements hydroxydes, il y a des groupements carboxyliques qui sont présents à la surface de ces colloïdes, ils sont chargés négativement. Donc ces deux particules chargées négativement, eh bien, vont avoir tendance d'une part à s'attirer, ce sont les forces d'attraction dites de Van der Waals, deux particules donc, vont s'attirer, et puis comme elles sont de charge, de même charge, eh bien, il va y avoir une répulsion électrostatique, et donc en fait il va y avoir une énergie de répulsion. Donc d'une part une énergie attraction de Van der Waals, ce que j'indique ici, et puis une énergie répulsion électrostatique. La somme de ces deux énergies, c'est la courbe en vert ici, qui est un petit peu courbée justement, et à longue distance, les particules sont suffisamment éloignées pour que finalement l'énergie potentielle soit nulle, il ne se passe rien, les particules n'ont ni tendance à se repousser ni à s'attirer. Lorsqu'elles vont se rapprocher, elles ont déjà tendance à s'attirer. C'est la force d'attraction de Van der Waals qui est prédominante. Elles vont s'attirer jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un moment où la répulsion électrostatique va prédominer, et donc à partir de ce point-là, les particules ne vont plus pouvoir se rapprocher. Et finalement, donc, à ce niveau-là, eh bien, la suspension de colloïdes est stable, elle ne va quasiment plus bouger. Donc pour pouvoir la rapprocher, eh bien, il va falloir pouvoir surmonter une barrière d'énergie, donc qui est ce que j'appelle le E-max ici. Donc il va falloir fournir de l'énergie à ces particules pour leur donner la force de se rapprocher. Alors, toujours un petit peu de théorie, et puis je vous promets qu'après je vais arrêter avec la théorie. En fait, là, on va regarder non pas deux particules, mais une particule isolée. Et une particule isolée, donc, comme je l'ai dit, elle est chargée négativement, mais elle est dans l'eau. Dans l'eau, il y a des charges positives, il y a des charges négatives. Et donc, cette particule négative, elle a tendance à se recouvrir partiellement, eh bien, des charges positives qui sont présentes dans l'eau. Et là, il y a une couche fixe, rigide, qui est en fait une couche d'ions positifs à la surface de cette particule. Et puis, un petit peu plus loin, eh bien, il y a une deuxième couche, hein, c'est la théorie de la double couche. Il y a une deuxième couche qui, elle, en fait, est déformable, mobile, et dans laquelle il va y avoir essentiellement des ions positifs au fur et à mesure qu'on se rapproche de la particule. Et puis, plus on s'en éloigne, plus, à ce moment-là, eh bien, il y a à peu près le même nombre de particules positives et négatives. Donc, en fait, eh bien, c'est cette couche ici diffuse qu'il va falloir un petit peu modifier pour que les particules puissent se rapprocher. Sachant que cette couche fixe ici, on a beaucoup plus de mal à agir sur elle. Alors un point important ici, c'est que ce potentiel-là, on peut le mesurer avec un outil qui s'appelle le zétamètre, qui regarde en fait la mobilité de cette particule quand on met un champ électrique. Et ce zétamètre, en fait, c'est un paramètre extrêmement important parce que c'est lui qui va nous dire si nos produits ont bien marché ou pas. Plus le potentiel zeta va se rapprocher de zéro et plus on va voir que nos produits ont bien marché. Alors, donc de la théorie à la pratique, je rappelle que les particules colloïdales donc, ne peuvent pas sédimenter parce qu'elles sont trop petites. Elles ne peuvent pas non plus s'agglomérer parce qu'il y a des forces électrostatiques prédominantes qui sont de répulsion. Et donc, il va falloir, pour pouvoir les séparer et donc les faire croître, les agglomérer et pour ça, réussir à diminuer la valeur de cette fameuse barrière d'énergie E-max. Donc, c'est ce que vont faire les coagulants et les flocculants. Quels sont leurs modes d'action? Eh bien, il y a plusieurs modes d'action possibles de ces produits. Ils vont jouer sur ce que j'ai montré tout à l'heure, donc sur cette double couche. Ils vont en fait la comprimer, ce qui va permettre donc aux particules de se rapprocher. Ils vont aussi avoir un autre mode d'action qui est en fait l'adsorption de cations, donc de particules positives, eh bien, encore plus proche, directement sur les colloïdes. Donc il y a des cations qui vont réussir à atteindre les colloïdes, et donc là, en fait, qui vont neutraliser en surface ces charges négatives. Un autre mode d'action, eh bien, c'est finalement, on ne va pas réellement toucher à la charge de surface de ces colloïdes, mais on va faire à côté, on va précipiter une autre espèce au côté, qui va croître, et qui va les inclure, finalement, au milieu de ce précipité qui va croître, et donc qui va, lui, les entraîner. C'est un troisième mode d'action. Enfin, il y a un dernier mode d'action. Là, on va utiliser non pas des ions chargés, mais également des macromolécules, donc des polymères, qui, eux, vont permettre de faire des ponts entre ces particules et donc de les relier et donc de casser comme ça la stabilité de cette suspension. Alors, je vais prendre le premier cas, la compression de la double couche. Et là, on fait une petite expérience. On met donc une argile, la kaolinite, dans un récipient, et puis on va ajouter petit à petit un produit. Alors, les premiers produits que je vais montrer ici sont des produits extrêmement simples. Il y a du sel, du chlorure de sodium, il y a un autre sel, le chlorure de calcium, et enfin un troisième, le chlorure d'aluminium. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est le trouble de l'eau, donc la turbidité, en fonction de l'ajout de ces produits. Donc, quand ça va être la valeur 100, l'eau est trouble. Quand c'est la valeur 0, eh bien, l'eau est complètement limpide. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut ajouter une certaine quantité de chlorure de sodium pour arriver, en fait, à un moment donné, à faire des flocs et donc avoir de l'eau limpide. Si on ajoute un chlorure de calcium, eh bien, on met moins de produits. On met 70 fois moins de produits à peu près. Si on rajoute un chlorure d'aluminium, on met encore moins de produits, on met à peu près 700 fois moins de produits. En fait, la dose de coagulant à mettre pour réussir à casser cette turbidité va dépendre de la charge du cation. Donc, une fois positif pour l'ion sodium, deux fois pour l'ion calcium, trois fois pour l'ion aluminium. Et en fait, ce qui est intéressant à constater, c'est que cette quantité de produits à mettre en œuvre, elle est quasiment indépendante de la concentration en colloïdes. Alors ça, c'est un phénomène qui se produit naturellement. On voit ça finalement dans l'estuaire des fleuves. Un estuaire des fleuves, c'est un endroit où l'eau de rivière douce va rencontrer de l'eau salée, donc finalement du chlorure de sodium. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Eh bien, on a de la vase qui se forme. Toutes les particules d'argile qui sont en suspension dans cette eau de rivière vont faire de la vase au niveau de cet estuaire. Alors, il n'y a pas qu'au niveau des fleuves qu'on peut remarquer ça. Hein. C'est quelque chose qui est très, très ancien, finalement. Là, c'est quelque chose qui est une phrase qui est tirée de la Bible, du Livre des Rois. Donc, c'est le prophète Élie qui jette du sel pour purifier de l'eau. Deuxième processus, l'adsorption des ions. Là, on va avoir un processus qui va être nettement plus efficace parce qu'on ne va pas toucher sur la couche un petit peu lointaine du colloïde, mais vraiment sur sa surface. Et donc, on va rajouter ici un sel d'ammonium chargé seulement une fois positivement, et on voit en fait qu'il est beaucoup plus efficace que le chlorure de sodium qui se trouvait à peu près ici tout à l'heure, bien qu'il ait la même charge. En fait, ce sel d'ammonium, il va s'absorber donc à la surface des particules et il va donc les neutraliser directement sur la surface. Et donc, on obtient des particules qui sont chargées positivement et donc à nouveau, pardon, excusez-moi, ces particules vont déjà être chargées quasiment nulles. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? C'est que plus on rajoute de cet ion ammonium, plus finalement les particules vont à nouveau se charger positivement, et puis petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le phénomène est réversible, c'est-à-dire que, à nouveau, on va avoir des colloïdes qui vont se repousser, et donc à nouveau, on va avoir de la turbidité. La dose optimale de ce réactif, elle va dépendre de la charge de ce réactif, et puis elle va dépendre aussi de la concentration en particules, contrairement au cas précédent. Encore plus efficace, ça c'est nettement plus récent et c'est quasiment des dernières générations de produits coagulants, eh bien en fait, on va prendre des produits et on va un petit peu les modifier. On prend le sel d'aluminium que j'ai présenté tout à l'heure, qui a été chargé 3+, Et en fait, on va le modifier, on va déjà rajouter, par exemple, de la soude à l'intérieur d'une solution concentrée de chlorure d'aluminium, de la soude en quantité absolument, avec un dosage relativement fin, de façon à neutraliser ce sel d'aluminium et à produire ce qu'on va appeler des polycations minéraux. Ce sont ce type d'espèces ici. Donc on a non plus un seul aluminium, mais on en a 13. Et ces 13 aluminiums, en fait, vont faire des ions qui vont être chargés 7 fois. Donc on a vu tout à l'heure que la charge était extrêmement importante pour faire cette coagulation. Avec cette charge 7 fois plus, ces ions vont être extrêmement efficaces. Donc là, on va avoir des produits extrêmement efficaces. Et comme pour tout à l'heure, ces produits vont en fait s'absorber, donc à la fois faire de la jouer sur la double couche, jouer sur l'adsorption, et donc déstabiliser la suspension colloïdale. À nouveau, le processus, quand on met trop de sel d'aluminium, de reformation des colloïdes et de la stabilité. Et quand on rajoute encore plus de ce sel d'aluminium, eh bien à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? La turbidité va à nouveau décroître, mais là, on va faire beaucoup plus de boue, beaucoup plus de flocons, parce qu'on va précipiter l'hydroxyde d'aluminium qui, lui, va en fait entraîner donc, tous les colloïdes qui vont être présents et qui vont avoir tendance à sédimenter avec cet hydroxyde d'aluminium. Alors ça, c'est un effet qu'on utilise rarement en traitement des eaux parce qu'on fait beaucoup plus de boue, mais c'est quand même un effet qu'on utilise lorsque les eaux sont très douces, très peu turbides. Enfin, un dernier processus. Alors, finalement, quelque part, le plus efficace, mais il est cher parce que les produits qu'on utilise sont chers et il est très pointu, c'est l'utilisation donc de polymères. Ces polymères aussi sont, par exemple, des polyacrylamides de haut poids moléculaire. Ce sont des particules qui peuvent être également chargées, mais qui vont agir différemment. En fait, le polymère, eh bien, il va se fixer sur la particule de colloïde, comme montré ici, il va s'accrocher sur cette particule, et finalement, avec sa longueur de chaîne, eh bien, ce polymère-ci va pouvoir toucher l'autre particule, et finalement, il va faire des ponts entre ces particules, il va les rassembler. Et donc, on va faire, de cette façon-là, des flocs qui vont être relativement stables et qui vont être très gros et sédimentés facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute de plus en plus de polymères ? Eh bien, il y a encore un autre défaut, c'est que les polymères, eh bien, ils vont tellement s'accrocher aux particules qu'ils vont la recouvrir complètement. Et la recouvrant complètement, en fait, ils vont à nouveau faire un écran, à nouveau un écran chargé, et à nouveau les particules vont avoir tendance à s'éloigner. Alors, c'est le principal problème de ces polymères qui sont très efficaces, c'est qu'en fait, le passage entre cette dose optimale et la dose où on commence à nouveau à restabiliser la suspension est très très étroit. Alors, ça, c'est ce qui se passe finalement dans un bécher. Quand on va passer au traitement d'eau avec des processus donc avec d'extrêmement volume, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect cinétique. Il va falloir que tout ça, ça se passe très vite. Et donc, chacune de ces phases, coagulation, flocculation, avec deux étapes de flocculation, eh bien, on va regarder à quelle vitesse ça se fait. La coagulation, c'est quelque chose qui se fait très vite. On fait juste une neutralisation de charge, une adsorption. Ça, c'est quelques secondes. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de bien agiter, de façon, et surtout de bien injecter au bon endroit dans notre usine d'eau ces réactifs de façon à ce qu'ils soient le plus efficaces possible. Le deuxième processus, c'est ce qu'on va appeler la flocculation péricinétique. On va faire des microflocs. En fait, on va faire des premiers flocs qui vont avoir une petite taille, qui vont avoir tendance à se rencontrer par simplement l'agitation de l'eau due à la température, le mouvement brownien. Et en fait, la variation de cette particule, elle va être liée à la température, au nombre de ces particules et à la viscosité. Ça, en théorie, c'est indépendant de la vitesse d'agitation. En pratique, ça l'est, tout simplement parce qu'il va falloir quand même faire quelque chose d'homogène. On ne veut pas que tous les flocs se fassent au même endroit, on veut que ça se fasse de façon homogène dans toutes les grandes cuves qu'on va mettre dans l'eau potable, et donc on agite un petit peu. Ça dure quelques dizaines de secondes. La dernière phase, la flocculation orthocinétique, c'est la croissance des flocs. Donc tous ces microflocs vont se rencontrer, c'est une question de probabilité de rencontre, et en fait, il va falloir agiter pour que ces flocs puissent se rencontrer. Il faut agiter, mais pas trop fort, parce que si on agite trop fort, on les casse à nouveau. Donc il y a un optimum à trouver. Et cette phase-là, elle va durer 10 à 30 minutes à peu près. Donc en fait, le nombre de flocs que l'on va faire, eh bien, il est lié au gradient de vitesse d'agitation. Alors quand je vous dis que c'est très important, je ne sais pas si vous avez déjà visité une station d'eau, mais c'est quand même une station d'eau, c'est des tailles gigantesques. Et ça, ça fait plusieurs centaines de mètres de diamètre. Hein, et c'est là justement que va se passer la sédimentation dont je parle. Et ça, ce sont les bras qui font cette agitation assez lente. Donc on voit, compte tenu de la taille déjà de ces équipements, qu'il est extrêmement important d'avoir des processus efficaces qui permettent de sédimenter assez rapidement. Et on voit pourquoi on parle d'au moins un mètre par heure. Quels sont les paramètres qui ont été plus influents ? Eh bien, il y a le pH, il y a la force ionique. Tout ça, c'est une question de charge. Le pH, c'est la force ionique de l'eau, donc la quantité d'ions qu'il va y avoir en solution, eh bien, vont tout modifier. Et ça va déterminer tous les mécanismes. Il y a, bien entendu, les impuretés qui sont présentes dans l'eau. Plus il y a d'impuretés, plus ça va jouer. La nature de ces impuretés va être importante parce que, en fait, elles peuvent faire des compétitions avec les produits qui sont présents. Et puis, il y a la température. La température, ça va modifier la viscosité. C'est un paramètre extrêmement important, mais c'est un paramètre, en tout cas, quand on va parler d'eau potable et d'eau usée, sur lequel on ne peut quasiment pas jouer. Mais entre ce qui se passe en été et en hiver, eh bien, il va y avoir des processus qui sont extrêmement différents. La nature des coagulants flocculants, la quantité de coagulants flocculants qu'on va introduire en été et en hiver ne sont absolument pas les mêmes. Autre paramètre, donc, la concentration en colloïdes et donc bien évidemment le réactif et son dosage. Combien on en met dans l'eau. Alors quels vont être ces coagulants flocculants? Quels sont ces produits commerciaux? Il y a plusieurs types de produits commerciaux qui sont utilisés. Il y a déjà des produits qui sont très sympathiques parce qu'ils sont naturels. Ce sont les flocculants organiques polymères naturels. Donc ça va être par exemple des amidons, donc qui sont des polysaccharides. Ça va être de la gomme guar, par exemple, des alginates. Ils ont un grand intérêt, ces réactifs, donc, parce qu'ils sont naturels, ils ne sont pas toxiques, ils sont biodégradables. Donc ça serait bien si on pouvait l'utiliser dans toutes les applications, mais le problème, bon, c'est que d'une part ils sont chers, mais ce n'est pas le principal problème quand on parle de traitement d'eau. Le principal problème, c'est qu'en fait, ils vont se dégrader très très vite, on ne peut pas le stocker. Une fois qu'on les a mis un petit peu en solution dans l'eau, avant de les injecter, ils vont se dégrader très très vite. Et donc, il y a des pertes très importantes de produits. Il y a surtout une efficacité qui est plus réduite à cause de cette dégradation. Deuxième type de produit qu'on utilise, donc, ce sont les flocculants organiques polymères, à ce moment-là, de synthèse. Ces produits, en fait, on les fait un petit peu sur mesure. On fait sur mesure leur charge, on fait sur mesure leur taille moléculaire en fonction de l'application visée. Donc, les industriels qui fabriquent ce type de produits ont des gammes de plusieurs centaines de polymères différents à proposer dans ces applications de traitement d'eau. Ce sont des produits qui sont chers, mais ils ont l'intérêt d'être utilisés en très faible dose, donc l'un compense l'autre. Dernier type de produit utilisé, les coagulants minéraux. Donc, eh bien, c'était un petit peu le sel du prophète Élie que je citais tout à l'heure. On n'utilise plus du chlorure de sodium, mais on utilise énormément des sels de fer et des sels d'aluminium, surtout les dernières générations de produits un petit peu hydrolysés que j'ai cités, parce qu'on en met moins. Ce sont des produits extrêmement efficaces parce qu'ils sont très, très chargés et donc ils ont un excellent rapport charge-taille. Ce sont des moins bons flocculants que l'impolymère, mais donc, comme je l'indiquais, ils sont beaucoup moins chers. Ces produits, hein, les sels minéraux, donc les sels d'aluminium et sels de fer, eh bien, pratiquement, quels sont-ils? Ce sont le sulfate d'aluminium. Tout à l'heure, je parlais de chimie de commodité. Eh bien, le sulfate d'aluminium, c'est encore un exemple de chimie de commodité. C'est un produit qu'on fait avec des volumes extrêmement importants. Ça reste toujours le produit le plus utilisé dans le domaine, mais petit à petit, donc, il est déplacé dans quasiment toutes les applications par des polymères minéraux nettement plus performants, en particulier donc, les polymères qu'on avait appelés les polychlorures d'aluminium, qui sont dont j'ai indiqué la formule. Ces produits donc contiennent de l'aluminium, mais ils vont contenir un petit peu donc des radicaux OH- qui vont les neutraliser et vont faire ces polymères donc très chargés que j'ai cités tout à l'heure. Donc la dose d'utilisation est plus faible et l'efficacité est accrue. Point important, c'est la qualité de l'eau. Un point qui est très important quand on parle d'aluminium, c'est la quantité d'aluminium qui va rester dans l'eau. Puisque finalement, il ne faut quasiment pas qu'il reste d'aluminium dans cette eau qu'on vient de traiter. Ces produits-là permettent d'atteindre des teneurs en aluminium extrêmement faibles. Deuxième type de produit, les sels de fer. Alors, il y a plusieurs types de sels de fer. Il y a plusieurs degrés d'oxydation possibles. Donc, du fer chargé 2+, du fer chargé 3+, contrairement à l'aluminium. Et finalement, comme c'est une question tout à l'heure de degré de charge, comme je le disais, eh bien, les 3+ sont automatiquement plus efficaces que les 2. Il n'existe pas de polymère minéral de sel de fer. Et puis, le produit utilisé, le plus utilisé, c'est le chlorure ferrique. Au niveau des polymères, eh bien, comme je le disais, il y a toute une gamme de polymères extrêmement abondante. Ce sont des produits qui vont avoir des tailles moléculaires très élevées, 10 puissance 5 à 10 puissance 7 grammes par mol. Ils peuvent être cationiques, anioniques, toutes les formes possibles. Et ce sont essentiellement, en traitement des eaux, des polyacrylamides. Donc, j'ai indiqué ici la formule du polyacrylamide. Ce sont les plus utilisés. Extrêmement utilisé également ce produit qu'on va appeler donc, dans le jargon des traiteurs d'eau le DANMAC, donc chlorure de diéthylméthylammonium, qui lui va être utilisé parce que c'est quasiment un coagulant. Ceux-là sont des flocculants et lui est quasiment un coagulant. Pour donner quelques chiffres sur ces coagulants et flocculants, déjà des prix. Bon, j'ai marqué des prix en euros, vous saurez faire la multiplication par presque 7. Donc les produits minéraux, c'est entre 100 et 300 euros par tonne de produits commercial. Ce n'est pas très cher pour un produit quasiment de spécialité pour les meilleurs produits. On en utilise à peu près plusieurs millions de tonnes en Europe, et donc plusieurs milliers de tonnes pardon, en Europe, et donc on a un chiffre d'affaires d'à peu près 200 millions d'euros. C'est 6% des produits chimiques qui sont utilisés en traitement d'eau. Et donc les principaux producteurs européens sont Rhodia, Atofina en France, et puis Kemira, au nord de l'Europe. Au nord de l'Europe, dans les pays du nord de l'Europe, on utilise énormément de produits minéraux, beaucoup plus de produits minéraux que de polymères. Les polymères, je l'ai dit, sont nettement plus chers. Donc vous voyez ici les gammes de prix par rapport aux produits minéraux. Donc c'est plus que 10 fois plus. Le chiffre d'affaires est moins élevé, tout simplement parce qu'on en utilise beaucoup moins, mais on en utilise de plus en plus, donc j'indique une croissance importante pour ce type de produit, 4% par an. Les principaux producteurs, à nouveau un Français, SNF FloRG, et puis Siba, Nalco, et puis Stockhausen. Au niveau de ces produits, quelques règles d'usage de ces produits, les sels de fer et d'aluminium, ce sont donc d'excellents coagulants, ils sont très utilisés. Donc, comme je le disais, il faut faire très attention à leurs conditions d'utilisation, à cause en particulier d'une teneur résiduelle dans l'eau traitée. Que ce soit pour le fer et l'aluminium, il ne faut pas qu'il y ait plus de 0,2 mg par litre dans l'eau qui a été traitée. Les polymères, ce sont essentiellement des flocculants. Ils sont très peu utilisés en eau potable, donc en eau destinée à la consommation humaine, essentiellement parce que les monomères, en particulier donc de l'acrylamide, sont toxiques. Et donc, la directive européenne impose une teneur en limite en ces monomères de 0,1 microgramme par litre. Là, on était en milligramme par litre, ce qui fait qu'on ne les utilise pas. En tout cas, pas en France. On les utilise en Allemagne, par exemple. Alors, comment ça se passe dans une station de traitement d'eau? Eh bien, en fait, on les utilise à trois endroits, ces produits. On les utilise tout de suite à l'arrivée de l'eau. On commence par retirer les branches, les gros cailloux, dans des grilles, puis après, en fait, on va les utiliser pour pouvoir retirer plus facilement les huiles, les graisses et puis le sable dans un premier bac. Ensuite, donc, cette eau, eh bien, elle va, par exemple, être dans un procédé biologique, donc de purification à l'aide de bactéries qui vont, se nourrir des impuretés présentes dans l'eau. Et on va donc les utiliser après ce processus, ici, donc, avant l'étape de sédimentation, pour faire sédimenter toutes les boues qui ont été produites ici dans cette étape de dégradation par des bactéries. Troisième point, on va les utiliser, c'est à la fin. Donc là, on produit des boues. Eh bien, ces boues, en fait, elles sont très diluées, elles sont à quelques grammes par litre. On va les amener, en fait, à des boues quasiment solides en rajoutant à nouveau ce type de produit, exactement les mêmes types de produits, des coagulants et des flocculants, donc pour concentrer ces boues. Donc, trois points d'introduction de ces produits dans une usine de traitement d'eau. Alors, en fait, les usines de traitement d'eau, elles évoluent énormément. Et cette usine de traitement d'eau, là, je crois que c'est choisi ici. Donc, l'usine de traitement d'eau des années 90, eh bien, elle évolue énormément. Et maintenant, à présent, on arrive vers ce type d'usine de traitement d'eau. Ça, c'est Méry-sur-Oise. C'est ouvert en fin 99. Et c'est la première usine au monde qui va utiliser non plus donc, ces grands bacs de sédimentation, mais des membranes. Et donc, en fait, on va filtrer l'eau sur des membranes de plus en plus fines, des membranes d'ultrafiltration, et puis ensuite des membranes extrêmement fines de nanofiltration. Donc là, on va retirer les plus grosses particules, et puis ici, on va retirer une partie, on va retirer par exemple tous les pesticides, on va retirer justement les sels comme l'aluminium, le fer qu'on aura mis avant, mais on va pas retirer le calcium et puis le sodium, qui sont des sels minéraux intéressants. Donc c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Et bien, dans cette usine-là, donc, on utilise toujours, en fait, des coagulants en amont, donc pour protéger les membranes. Parce que ces coagulants sont absolument nécessaires pour que les membranes ne se colmatent pas trop vite et donc continuent à laisser passer l'eau. Par contre, on va quasiment moins utiliser, par exemple, du charbon actif. Le dernier produit qu'on va utiliser ici, c'est un désinfectant. On va toujours rajouter du chlore à la fin de cette station d'eau parce qu'en fait, après le traiteur d'eau, eh bien, il y a les réseaux de distribution, il y a plusieurs kilomètres de réseaux de distribution, il peut se passer des choses dans ces réseaux de distribution, donc on rajoute toujours un désinfectant. Pour terminer cet exposé, je vais donner quand même quelques perspectives en fait, sur les développements de ces produits. Qu'est-ce qu'on fait actuellement en recherche et développement sur ces produits? Eh bien, on recherche d'une part de nouveaux produits, des produits complètement neufs, on cherche à travailler sur des formulations, des mélanges de produits, et puis on cherche à trouver des innovations dans les applications qui se développent de plus en plus. Donc ces nouveaux produits, eh bien, ce sont par exemple des polymères synthétiques beaucoup plus facilement biodégradables que les polyacrylamides. Ce sont également des produits amphotères, c'est-à-dire chargés à la fois positivement et négativement, donc des produits qui vont être encore plus sur mesure par rapport aux applications que l'on veut faire. Il va y avoir également, par exemple, des polymères naturels qu'on va modifier de façon à faire en sorte que les défauts de ces polymères, en particulier donc leur dégradation rapide, soient améliorés. Donc on travaille dans tous ces axes-là de recherche sur les polymères principalement. On travaille également donc sur des formulations. Par exemple, on va mélanger donc des sels d'aluminium avec un polymère. Et on va avoir à ce moment-là un sel d'aluminium qui va être un meilleur flocculant et puis un polymère qui va être un meilleur coagulant. L'ensemble des deux vont beaucoup mieux marcher. Ça, c'est déjà utilisé en papeterie, donc un système dual, donc pour à la fois le coagulant et le flocculant. Donc, c'est utilisé en papeterie. Enfin, donc, énormément de travail en recherche et développement sur toutes les nouvelles applications à grande échelle de ces produits, en particulier le traitement des boues. On commence à bien savoir traiter l'eau, à avoir une eau qui est extrêmement pure, et ça, c'est heureux. Maintenant, en purifiant l'eau, on est obligé de faire des boues. Et donc, ces produits-là, en fait, ils vont permettre non pas de faire moins de matière minérale intrinsèque qui vont former les boues, mais en fait, on va retirer toute l'eau qui sont dans les boues, et donc on va faire moins de volume de boues. Et puis, comme je le disais, ça, c'est un axe de développement extrêmement important compte tenu de l'évolution de ces usines donc, d'eau potable en particulier. Donc, c'est tout ce qui va être association avec les procédés membranaires. Voilà, donc j'ai terminé mon exposé et je vous remercie de votre attention.
Une analyse d'une eau potable.
Alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas pris avec moi, qui est extrêmement vaste. Un traiteur d'eau, donc, il est responsable de la qualité de l'eau qui sort de votre robinet. Donc, étant responsable de cette qualité d'eau, il fait tous les jours une analyse complète, évidemment, de l'eau qui sort de son usine, et pour certains éléments, il le fait plusieurs fois par jour. Dans le prix de l'eau, donc en Île-de-France, c'est à peu près 20 francs le mètre cube pour une eau potable, dans le prix de cette eau, il y a une part extrêmement importante qui est de l'ordre de 2 ou 3 francs. C'est très important par rapport à 20 francs, rien que pour cet aspect analyse de l'eau. Alors, qu'est-ce qui est analysé ? Eh bien, sont analysés, d'une part, les produits minéraux. J'ai parlé de l'aluminium, du fer. Il y a un certain nombre d'autres produits, comme les, par exemple, tous les métaux lourds, bien sûr, l'arsenic, le cuivre, le cadmium, etc. Et ça, ce n'est pas du tout 0,2 mg litre, c'est à nouveau des microgrammes par litre qu'on veut éviter d'avoir. Il y a tous les pesticides, par exemple. Donc là, également, il y a des teneurs. Tout ceci est absolument réglementé. Donc, sur la base de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a des réglementations au niveau européen extrêmement strictes qui se mettent en place, et tout ceci est traduit après au niveau des réglementations françaises. Donc, j'ai dit les pesticides, il y a également évidemment une analyse de tous les produits que l'on va mettre dans l'eau, et également de ce qu'on va appeler les métabolites de ces produits, c'est-à-dire les produits de leur dégradation. Ça fait en tout une liste d'à peu près une centaine de paramètres. Donc je ne vais pas vous les détailler. Vous pouvez avoir cette liste, alors, par exemple, en vous adressant à l'Office de l'eau de l'Île-de-France, ou bien je pense que si vous demandez cette analyse d'eau à la personne qui en fait, vous fournit votre eau, vous devez, je pense, de façon obligatoire, avoir cette analyse de votre eau.
Oui, monsieur.
Oui. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Une question pratique, parce que bon, l'eau à Paris, j'ai entendu dire qu'elle était de bien meilleure qualité que, par exemple, à Francfort, où l'eau vraiment a un autre goût. Vachement, il y a beaucoup plus de sel à Francfort en Marne qu'à Paris. Et la deuxième partie de ma question, c'est... qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence entre une eau vendue, dite potable, et l'eau du robinet, dite potable, à Paris ? Merci.
Alors, première partie de votre question, il est vrai que la qualité de l'eau n'est pas la même dans toutes les villes, pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que cette eau, en fait, vous avez compris qu'en fait, la matière première, c'est l'eau de rivière qui est avant la ville. Donc, ça va déjà dépendre de la qualité de cette eau de rivière. La deuxième chose, c'est le procédé. Toutes les unités de traitement d'eau n'ont pas forcément le même âge. Elles n'ont pas forcément les mêmes procédés. Donc, elles sont périodiquement réaménagées, modernisées, de façon à ce que l'eau soit de meilleure qualité. Et il y a sans arrêt en fait des sondages auprès des gens qui boivent l'eau pour savoir quelle est la qualité de cette eau. L'usine de Méry-sur-Oise ne s'est pas faite pour rien à Méry-sur-Oise. C'est faite à Méry-sur-Oise parce que l'eau de l'Oise n'est pas très bonne, de très bonne qualité. Elle a des matières humiques qui colorent l'eau et qui, paraît-il, lui donnent un goût. Et en fait, avec ce procédé de nanofiltration, eh bien, les tests de goutteurs d'eau, parce qu'il y a des goutteurs d'eau hein, sur les usines, ont tendance à dire qu'il n'y a plus ce goût particulier qu'il y avait à l'eau potable faite à Méry-sur-Oise avec le procédé traditionnel. Alors, au niveau de la deuxième partie de votre question, l'eau potable du robinet, elle a une qualité d'eau qui n'est pas si mauvaise que ça. Ce que vous sentez surtout quand vous buvez votre eau, c'est ce que j'ai appelé les désinfectants à la fin. En fait, ils sont quand même un petit peu... nécessaire pour c'est une garantie en fait pour que dans tous les réseaux qu'il y a derrière, il n'y ait pas de problème bactérien en particulier. Donc ce que vous sentez, c'est essentiellement quand même le chlore. Au niveau de tous les autres produits qui sont présents, eh bien il y a des quantités qui sont absolument minimes au niveau donc de ces produits. Alors il se peut qu'il y ait des accidents, il se peut qu'il y ait des pollutions. Et donc, en fait, ce sont les analyses périodiques qui les montrent. Et là, il y a quand même, il faut le dire, quelques jours pour que le traiteur d'eau diagnostique la cause de la pollution et réagisse. Mais en général, le traiteur d'eau, il a plusieurs filières. Et donc, quand il y a un problème, il arrête une de ses filières, la filière qui a problème, et il fait marcher les 7 ou 8 autres filières qui sont à côté. L'eau que j'ai devant moi, qui est en fait non pas de l'eau du robinet, mais une eau potable, mais alors à ce moment-là une eau minérale, qui vient à ce moment-là de nappe, de l'eau de nappe, c'est quand même quelque chose d'autre. Elle n'a pas les mêmes qualités que l'eau potable. Elle a les qualités intrinsèques de cette eau de nappe. Et là, donc, il y a également une analyse. Et cette eau, en fait, elle a les qualités de la nappe dans laquelle on l'a soutirée. Il y a quand même certaines eaux qui seraient en limite des normes eau potable, par exemple pour la teneur en sulfate ou la teneur en fluor. Mais en fait, ces eaux sont quand même dans les normes eau potable. On peut tout à fait les boire sans aucun problème. Toutes ces eaux minérales ont des teneurs en minéraux qui sont différentes.
Oui, monsieur Toulaou.
Bonjour. Dans le cadre de la fabrication des nouveaux bétons, on incorpore des adjuvants pour retarder la prise de ces matériaux. Oui. Est-ce que les phénomènes mis en jeu sont de même nature et est-ce que votre société étudie ce type de phénomène?
Alors la réponse c'est... Alors je ne suis pas le spécialiste des bétons, mais je sais que mes collègues du centre de recherche d'Aubervilliers où je travaille travaillent également sur les bétons et je peux vous dire qu'ils ont déjà testé nos produits pour l'application que vous citez. Et je peux vous dire qu'ils testent aussi des produits dérivés de cela de façon quand même à optimiser donc leur application, comme je le disais au départ, parce que les produits qu'on propose ne sont pas suffisamment bien adaptés aux problèmes de béton. Un sel d'aluminium, a priori, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour cette application béton, parce que de toute façon, il va se retrouver dans le béton sous la forme donc, d'un composé contenant donc, de l'aluminium, donc déjà présent dans le béton. Un sel de fer, ça me paraît beaucoup plus incertain compte tenu de la coloration rouge qu'il va apporter et compte tenu aussi des problèmes de corrosion qu'il risque d'apporter.
Est-ce qu'on peut avoir des noms, s'il vous plaît, à contacter ?
Oui, soit vous me contactez là, à la fin de la réunion, je vous donne ma carte et à ce moment-là, je vous donnerai les noms. Ou je peux vous les citer, mais je préférerais vous les écrire.
Oui, monsieur.
Je voulais vous demander d'une part... Est-ce qu'il y a des vérifications biologiques qui sont faites en aval? Parce que probablement ces flocula et ces coagula sont très nocifs s'ils apparaissent à l'intérieur du tube digestif. Et d'autre part, je voulais vous signaler que le goût de l'eau est quand même très variable suivant les... Vous avez dit que c'était dû au chlore, mais c'est très variable suivant effectivement les endroits où on goûte l'eau. D'autre part, je voulais vous demander, au sujet des membranes, comment on obtient des membranes avec des pores extrêmement fins? Et quel est le diamètre de ces pores? Et enfin, comme le mécanisme que vous avez évoqué est toujours un mécanisme électrique, on n'a pas trouvé de procédé purement électrique pour créer des, pour clarifier l'eau, en somme.
Alors, je vais répondre à vos questions dans l'ordre inverse que je vous ai posé. Il y a tout à fait des procédés électriques pour clarifier l'eau, donc ce qu'on va appeler de l'électrocoagulation et qui est utilisé. Non pas donc dans ces grandes unités, mais dans chez des industriels. Alors en fait, ça coûte quand même un petit peu cher, et c'est pour ça que finalement, ceux qui font de l'électrocoagulation, ils vont utiliser un processus qui va être intermédiaire, puisqu'ils vont prendre donc une anode soluble en aluminium, et à partir de l'électricité fournie, ils vont faire donc les sels d'aluminium que j'ai cités directement à partir de cette anode en aluminium. Au niveau des membranes, donc les procédés pour faire des membranes en fait sont assez multiples et assez sophistiqués. En général, on va prendre un tissu ou bien on fait des membranes en céramique, donc quelque chose qui va être poreux, qui va laisser facilement passer l'eau. Et sur ce tissu, donc sur cette première couche, on va mettre des couches successives de plus en plus fines. Donc il y a des membranes organiques et des membranes minérales. Les membranes minérales, on va mettre par exemple des produits comme du charbon actif ou bien on va mettre de l'oxyde de titane ou de l'oxyde d'aluminium. Et on va mettre en fait des produits très très fins avec des couches de plus en plus serrées de façon à réduire au maximum les pores. Et puis au niveau des membranes organiques, à ce moment-là, on va faire des polymères, des polysulfones ou bien de la cellulose, etc. Il y a énormément de types de membranes qui existent. Donc on va faire en fait à nouveau des toiles, mais des toiles en polymère à ce moment-là, que l'on va coller sur le tissu initial. Donc c'est cette peau, en fait, cette peau, cette dernière couche qui va faire réellement les propriétés de séparation de la membrane. Alors leur porosité, eh bien en fait on l'exprime en Dalton. La porosité c'est une unité, le Dalton, en fait, qui est liée à la masse moléculaire des espèces qui vont passer à travers de cette membrane. Donc par exemple, une membrane de nanofiltration, elle va faire entre 100 et 1000 Dalton, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer des molécules qui vont avoir un poids moléculaire compris entre 100 et 1000 grammes par mol. Donc l'ultrafiltration, par exemple, on va être entre 40 000 et 300 000 Dalton. La microfiltration, à ce moment-là, c'est plus grand, on ne va plus parler de Dalton, on va parler de taille de pore en micron. Je ne me rappelle plus votre première. Vous aviez donc une intervention sur la qualité de l'eau et le goût de l'eau. Vous avez raison, le chlore n'est pas le principal élément qui donne le goût de l'eau. Tout à l'heure, je citais quand même le problème de l'eau de l'Oise. Ce problème n'était pas un problème de goût dû au chlore, mais bien aux matières organiques qui étaient présentes. Et alors, enfin, je crois que votre dernière intervention, c'était sur... Non, ce n'était pas sur l'analyse bactériologique de l'eau, mais c'était sur les effets donc, de toxicité des produits. Alors, il y a énormément d'études de toxicologie sur ces produits, en particulier donc sur les polymères et les sels d'aluminium. Les sels d'aluminium, il y a périodiquement des études qui essayent de montrer la relation qu'il peut y avoir entre la présence de cet aluminium résiduaire dans l'eau et la maladie d'Alzheimer, par exemple. À ne pas confondre avec les problèmes de dialyse rénale. Quand on fait effectivement de la dialyse rénale, il est absolument nécessaire de ne pas prendre une eau de robinet qui puisse contenir de l'aluminium, ça c'est clair. Mais quand on va parler de la maladie d'Alzheimer, par exemple, là le problème est différent. Bon, toutes ces études, certaines ont montré des corrélations. Quelques mois après, il y a des études qui ont montré l'inverse, qu'il n'y avait pas de corrélation. Nous, en tant que traiteur d'eau ou en tant que fabricant de produits, on est extrêmement à l'écoute de toutes ces études, mais on doit avouer que pour le moment, on n'a pas de réponse claire aux questions qu'on peut se poser. Donc là, il y a un principe qui est le principe, je dirais, de précaution. Et donc nous, on travaille sur deux axes. D'une part, à réduire au maximum la quantité d'aluminium qui va pouvoir se mettre dans l'eau qu'on va potabiliser. L'Organisation mondiale de la santé a donné une norme à 200 microgrammes litres. Nous, on fait des produits où on dit que ça va être de toute façon moins que 100 microgrammes litres. Et en fait, nos produits, si le traiteur d'eau les utilise bien, peut atteindre 50 microgrammes litres, voire moins que 50 microgrammes litres. Alors, c'est quand même intéressant par rapport à ça de vous dire une expérience, c'est qu'en fait, les usines qui utilisent ces produits-là ont en général une teneur aluminium meilleure que les usines qui ne l'utilisent pas. Parce que finalement, il y a de l'aluminium qui est déjà présent dans l'eau de surface qu'on va utiliser. Et une usine qui utilise ces sels d'aluminium va faire des analyses périodiques et va, je dirais, contrôler son procédé sans arrêt et faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de défaillance de son procédé. Donc cette usine-là, elle va assurer le minimum réglementaire. Alors que l'autre usine qui ne met pas de sel d'aluminium, elle ne va pas forcément avoir tendance à mesurer ce paramètre. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les volets de votre question.
Voilà, merci Monsieur Motto.
Alors, si...
Non, pour le moment, il n'y a que Méry-sur-Oise. Pardon. C'est la première. Il y a d'autres usines en Europe qui utilisent également des membranes d'ultrafiltration ou aussi d'osmose inverse, mais la nanofiltration, c'est la première. Mais pour avoir, il y a deux jours, assisté à une conférence sur ce thème devant tous les spécialistes des membranes, il y avait la première présentation des résultats de Méry-sur-Oise et je peux vous dire que l'amphithéâtre était plein et qu'il y a eu énormément de questions. C'est quelque chose qui passionne les gens qui font les membranes.
Voilà. Nous vous remercions.